Bonjour à tous, je suis Priscilla et je vous souhaite la bienvenue dans mon premier podcast qui s'appelle Le rendez-vous des audacieux. Pourquoi ce nom ? Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il résonne avec le blog que j'ai fondé il y a un an qui s'appelle Soyez audacieux. Voilà, l'audace, le contraire de la peur, vous voyez un peu le truc. Donc, dans ce podcast, on va y parler avant tout d'échecs, car j'ai vraiment envie de dire la vérité. En France, c'est pas qu'une impression, l'échec est mal vu, c'est vraiment une bête noire. Si vous crachez une entreprise, revenez pas demain chez le banquier, il va pas vous faire les yeux doux, hein. Ça c'est clair. Alors que l'échec, tout au long de notre vie, il est indispensable à notre apprentissage, c'est notre seule méthode pour apprendre et avancer. On n'est pas des robots, on n'est pas des animaux, on n'a pas l'instinct animal, donc il n'y a que les échecs qui nous font avancer. Donc moi, à mon échelle, j'ai envie vraiment de dédramatiser ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est vraiment une quête que j'ai envie de mener, une quête personnelle, peut-être un peu comme une petite thérapie pour moi, et me dire, t'inquiète pas Priscilla, il y a plein de gens qui ont eu des échecs, il y a plein de gens qui vivent ça, partageons-le ensemble avec des témoignages d'entrepreneurs, de sportifs, etc. Je verrai un peu avec qui j'ai du feeling, avec qui j'ai envie d'en apprendre plus. Ou tout simplement des gens qui ont décidé d'entreprendre leur vie. Pour ce premier épisode, j'ai pour invité Jules. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je t'ai invité car tu as lancé ta start-up qui s'appelle Lash Look Map. Tu l'as fondée il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept ?
Lash Look Map, c'est une application mobile gratuite disponible sur Google Play et l'App Store qui permet de trouver tous les bars autour de soi. Et donc on référence 180 bars à Strasbourg avec notamment toutes les informations des happy hours et des informations uniques et exclusives des bars. Donc tu peux savoir où est-ce qu'il y a un mojito, où est-ce qu'il y a une terrasse, quelle est l'ambiance du bar, est-ce qu'il y a du wifi. Et tout ça pour savoir où sortir, quand, à quel moment, c'est trouver le bon endroit au meilleur prix.
Et comment t'es venue cette idée ?
L'idée, c'est, je pense, comme beaucoup ce genre d'application, c'est une idée d'étudiant à la base. On sortait dans les bars, on loupait toujours l'happy hour, une demi-heure trop tôt, une demi-heure trop tard. Donc au début, on s'est dit, tiens, on va noter. L'idée au départ, elle était toute bête. On a noté les happy hours dans un carnet papier, dans la coloc où j'étais.
Ah oui.
Et donc, on l'a fiché au mur comme ça. Et ensuite, les gens le prenaient en photo et on s'est dit, ils nous ont dit « Ah, ce serait bien d'en faire un site pour que ce soit accessible. » Donc on a vite fait développer en une après-midi une petite carte, un petit site tout bête que j'ai posté sur Facebook et en deux jours, il y a eu 10 000 visites.
10 000.
Et du coup, après on a fait le Startup Weekend en 2015 et après c'est parti de là.
D'accord, beau projet, enfin. C'est parti d'une petite idée juste de fête et
bah c'est parti d'une
rendez-vous.
Ça peut sembler être un délire d'étudiant à la base, mais en fait ça part d'un vrai problème, d'un problème qui peut paraître insignifiant et bête, ou aller boire un verre ou trouver un happy hour, mais en fait c'est un petit problème partagé par énormément de gens.
Moi je l'ai aussi hein, donc je l'utilise aussi.
C'est pour ça que tu du coup es utilisatrice et que du coup je disais aujourd'hui on est à plus de 50 000 téléchargements de l'application. Donc c'est bien la preuve que c'est un problème qui intéresse beaucoup de gens.
Et vous n'êtes pas qu'à Strasbourg ?
Aujourd'hui, on est à Strasbourg, on est à Paris. Mmh. On a commencé à référencer des bars dans toutes les villes. Mmh. Mais physiquement, on est à Strasbourg et à Paris. On compte étendre ça bientôt dans toute la France.
D'accord. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu peur de te lancer ?
Alors, Shlookmap, ce n'est pas ma première entreprise.
D'accord.
J'avais créé une première entreprise... Après une licence en publicité, je me suis dit, soit je fais un master, soit je crée ma boîte. Donc là, il y avait un peu d'appréhension. Et c'est quand on saute le pas, en fait, de créer son entreprise. Mais assez vite, j'ai eu la chance d'être rassuré par mon entourage, d'avoir les ressources qu'il fallait, le temps d'avoir trouvé un associé à l'époque. Donc je l'ai fait en me disant, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Au pire, après, tu reprends des études, tu retournes chez tes parents, tu te démerdes, tu trouves une solution, mais... C'était le moment ou jamais de le faire, donc je l'ai fait et je reviendrai prendre arrière.
D'accord.
Donc après, c'est toujours plus facile les fois suivantes.
Donc bonne expérience, malgré que ça n'a pas marché.
L'échec, c'est toujours là qu'on apprend. Ouais. Donc il n'y a rien de tel qu'un échec pour apprendre. Et donc, ça reste une super expérience et je regrette pas de ne pas avoir fait un master à la place.
Ouais, c'est ça.
J'ai plus appris en deux ans avec un échec qu'avec un master.
C'est ce qu'on dit en fait, qu'en six mois, on apprend plus qu'en, je crois, en deux ans d'école.
Probablement,
oui. Ouais, donc tu as eu de l'expérience. Donc, tu n'as pas eu de croyances limitantes pour Shlookmap?
Alors, pour Shlookmap, pour ma première boîte, peut-être un petit peu plus sur le fait qu'il fallait des ressources, surtout qu'au début, on ne savait pas qu'on était une start-up.
D'accord.
On s'en est rendu compte au bout d'un an, quand quelqu'un est venu nous voir, alors qu'on était littéralement dans notre chambre d'étudiants à faire un super projet. On travaillait tout seul, on ne sortait pas, on n'allait pas voir les gens. Au bout d'un moment, on voit quelqu'un qui dit « Mais en fait, vous êtes une start-up, il y a plein de gens comme vous. » Ah bon, on pensait qu'on était juste unique, différent, mais en fait, non, des entrepreneurs, des start-upers, des gens qui innovent, il y en a plein partout. Et donc, les croyances limitantes, il y en a toujours, je dirais plus, c'est des freins personnels. J'avais pas de croyances limitantes parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré, de pas rester tout seul, donc de pas me morfondre et de toujours apprendre, d'écouter des vidéos, des podcasts, de rencontrer des gens. Donc c'est ça qui permet de lever les barrières. Mais à part les freins perso, non, pas plus que ça.
Donc ça a été un moment difficile, cet échec, ou t'en as eu d'autres, même par rapport à la Shlookmap, t'as eu des moments un peu compliqués?
Sur Shlookmap, il y a eu des moments compliqués, parce qu'à un moment, on était 6 sur le projet.
À 6.
Et du coup, après, on a dû arrêter. Oui. Donc actuellement, il n'y a plus les mêmes associés qu'au début. Donc il y a eu des périodes de doute, voire de complète remise en question. C'est pas des moments faciles, mais on va dire qu'ils sont pas plus difficiles que des moments d'euphorie ou des moments où ça fonctionne, parce que c'est des moments on va dire négatifs, mais en fait c'est des moments où on apprend, où on rencontre tout autant de personnes, c'est des moments tout aussi riches d'émotions et de rencontres. Donc c'est pas des moments sympas, mais c'est finalement c'est pas des moments non plus c'est des moments où on continue d'avancer en fait. Je pense que l'échec fait partie du fait d'avancer, et que quand on réussit, quand on échoue, on avance. Le pire, en fait, c'est de rester sur place.
Ouais.
Et donc, quand tu as un échec, ou quand tu réussis ou quand tu réussis pas, tu avances. Tu fais des choses. C'est peut-être pas les choses que tu avais envie de faire. Fermer une boîte, liquider une boîte, virer des gens, c'est pas des trucs cool. Mais c'est une étape obligée, en fait. Et c'est une étape importante dans la vie de toutes les entreprises.
Et ce qui est aussi une grande erreur, c'est d'abandonner. Je pense. Enfin, à mes yeux. Enfin, après.
Ouais.
Ça dépend de tout. C'est des fois on se dit ouais, j'aurais pas dû abandonner, ou comme là Shlookmap, à un moment il y a eu un creux.
Ouais.
Mais t'as abandonné à un moment, ou tu t'es dit
On a abandonné certaines choses, ouais.
Ouais.
On a gardé l'application parce que ça fonctionnait, ça tournait un peu tout seul, ouais, entre guillemets, et que c'était dommage de l'arrêter. Donc il n'y a pas de raison d'arrêter, mais il faut, c'est peut-être un des trucs les plus compliqués, parce que c'est l'abandon, bah, ça va avec un moment, un constat d'échec. On se dit, mince, ça marche pas assez, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'argent, on a des problèmes, donc c'est pas des périodes agréables, quand même. Et surtout, il faut différencier, c'est le plus dur, l'échec de la persévérance.
Oui.
C'est-à-dire, à quel moment on se dit qu'il faut persévérer, et à quel moment on se dit, ok, il faut abandonner. Ça, c'est très dur, et souvent, en fait, on peut pas prendre cette décision soi-même. C'est des facteurs externes qui vont venir. Encore une fois, ça peut être des amis, des advisors, des entrepreneurs qui sont là pour nous ouvrir les yeux. Ça peut être simplement une problématique financière. À un moment, bah, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, quoi. En fait, tu n'as pas le choix que d'arrêter. C'est le fisc, c'est la banque qui viennent et qui font « bon, bah, là, c'est plus possible, quoi ». Dans notre cas, sur la première boîte, on a eu de la chance parce qu'on avait une fenêtre en fait, entre deux appels de charge. On avait fait un peu d'argent, on a pu faire une cessation d'activité propre. Donc bah, là, c'était aussi une contrainte qu'on a dû arrêter. On avait 2 semaines pour fermer la boîte et on prenait la décision, on ne la prenait pas. Si on n'avait pas fermé, ça aurait été différent. On ne va pas refaire l'histoire. Mais donc, à un moment, il y a des trucs externes qui nous imposent d'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer et rebondir après. Mais l'échec, ça fait partie. Et souvent, c'est dur à admettre parce qu'on ne s'en rend pas compte soi-même. Quoi.
Oui, et donc, vous avez. En fait, en bac, vous avez arrêté. Mais nous, quand on est utilisateur, on ne sait pas, en fait, vu qu'elle est encore là.
Alors à l'époque, ça se voyait peut-être parce qu'on, pendant bien 6 mois, on n'a plus rien posté sur les réseaux sociaux.
Oui.
Il ne se passait plus rien du tout, l'application n'était plus mise à jour. Donc c'est vrai que ça se voit. Là, ça fait un an que du coup, j'ai repris l'application. Reposter des choses sur les réseaux sociaux, redévelopper la communauté. Donc ça peut se voir en même temps si tu utilises l'application. Non, ça se voit pas, et c'était le but d'ailleurs, c'était que les gens pouvaient continuer à utiliser l'application du moment que tu as un serveur qui tourne et l'application qui est en ligne. Ça coûte pas grand chose et c'était dommage de casser ça, donc on n'allait pas abandonner ça. Et tout est resté, du coup il a suffi de reprendre le projet d'un autre angle pour que ça puisse repartir.
Parce que là, ça s'est passé quand? Il y a un an?
C'était il y a un an que j'ai commencé à reprendre.
Oui, parce qu'il y a un an de ça, j'avais des amis que j'ai rencontrés en soirée. Le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est « Hey, t'as la Shookmap ?» Et moi, j'ai fait « Ben ouais. Non, mais c'est trop bien et tout. Je connais tous les bars et tout. »
On a relancé à ce moment-là.
Oui.
Donc, c'est pour ça que ça a remis sur le devant de la scène l'application. En tout cas, dans la lumière. Et donc... C'est pour ça qu'à un moment, tu peux t'arrêter, reprendre, c'est pas grave. En fait, il faut toujours que la base reste la même. Mmh. Le projet est toujours là, le problème était toujours là, le problème n'a pas été résolu aussi. N'importe qui aurait pu venir et faire une application entre-temps.
C'est ça.
Personne ne l'a fait, pourtant le problème était toujours là, vu qu'il y avait toujours de plus en plus d'utilisateurs. C'est bien la preuve qu'à un moment, un, il y a un problème, deux, ça y répond le mieux possible jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment très important, c'est quel problème ça résout, et si le problème est toujours là, à un moment, quelqu'un va résoudre ce problème, en fait. La question, c'est de savoir si le problème que tu veux résoudre, c'est toi qui vas le résoudre ou c'est quelqu'un d'autre qui va le résoudre pour toi.
Et t'as décidé de le résoudre.
Et moi, j'ai décidé de le résoudre.
Donc, est-ce que le jeu de l'entrepreneuriat, ça vaut la chandelle pour toi? Enfin, t'es encore là, donc je me dis que oui, mais pour les autres...
Je sais pas si on peut déjà dire que c'est un jeu. C'est pas un truc qui se prend à la légère.
Une expression.
Et la chandelle, ça dépend en fait. Ça dépend ce que tu cherches. Il y a un truc que j'aime bien dire qu'on m'a appris un jour, c'est la règle des 3 F. En fait, les gens cherchent le fun, le fame ou la fortune, les entrepreneurs. Et donc, c'est quelque chose de très personnel, chacun va mettre en avant l'un ou l'autre. Il y en a qui vont beaucoup se mettre en avant eux-mêmes, qui vont se montrer sur les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent plutôt le fame, entre guillemets. Il y en a, ils le font pour l'argent, ils veulent juste gagner un max de blé, et ils le font pour la fortune. Et Shookmap, c'était plutôt le cas. Moi, je l'ai fait pour le fun, parce que j'avais envie de me marrer, j'avais envie d'apprendre, de rencontrer des gens. Donc, on a toujours privilégié le fun. Mais après, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un subtil mélange des trois. Et surtout, il y a pas de jugement. C'est très personnel duquel est le plus important pour chacun. Mais en fait, on se rend compte que dans tout projet, c'est l'un des trois qui prime. Et ça vient de l'entrepreneur en soi, de ce qu'il cherche et de pourquoi il devient entrepreneur. Donc le jeu, si tu veux, c'est plutôt de savoir, ok, qu'est-ce que moi je veux, au fond.
Et toi, t'as choisi quel F?
Le fun.
Le fun, quand même, t'es resté dessus.
C'est un projet fun.
T'as pas changé.
Donc on veut faire de l'argent et le but, c'est que ce soit connu. Mais c'est pour ça qu'on se met pas du tout personnellement en avant. C'est pour ça que je fais peu de podcasts et de choses comme ça. Mais et du coup, c'est avant tout pour le fun.
D'accord. Quelle est ta plus grande fierté pour le moment?
C'est les autres que j'ai pu aider dans mon parcours ou les personnes que j'ai rencontrées. C'est ce que j'ai pu apprendre des autres et ce que j'ai appris aux autres.
Un petit côté altruiste?
Pas forcément, mais dans le sens où je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait apprendre, qui sait transmettre. C'est le côté, le fait de ne pas être tout seul, en fait, de ne pas faire les choses pour soi. La plus grande fierté, c'est ce que j'ai pu apprendre des autres, c'est les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est le réseau que j'ai pu créer et les personnes qui m'entourent aujourd'hui.
Un mot pour définir quel type d'entrepreneur tu es?
Je dirais passionné.
Passionné. Tu as toujours voulu créer ton entreprise ou c'est venu comme ça, enfin que ce soit la première, enfin maintenant la deuxième?
Je pense que j'ai eu la fibre entrepreneur assez tôt. Mon oncle était entrepreneur, mon père aussi. Pas du tout dans les mêmes domaines, mais ça aide quand même, je pense. Et très vite, je ne me suis pas senti à l'aise en tant que salarié. J'avais envie de résoudre des problèmes. D'ailleurs, très basiquement, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur après le bac. Je voulais résoudre des problèmes. J'étais curieux. J'avais envie d'aider les autres et d'avoir un impact concret, en fait. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de concilier une autre chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la liberté. Et qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être parmi les métiers, parmi les personnes qui sont les plus libres, en fait, qui ont le plus grand pouvoir de gérer leur propre vie. Et donc, ça conciliait beaucoup de choses qui me tenaient à cœur. Et donc, je pense que assez vite, j'ai su que je voulais faire ça. En tout cas, au début, j'avais pas les mots. J'avais pas le. C'était compliqué de l'assumer. Mais maintenant, c'est une évidence que je veux faire que ça. Ouais.
Donc là, pour l'instant.
Après, si c'est pas ça, il y aura forcément autre chose.
Non, mais après, on a plein de projets. Là, t'en as un beau déjà.
Bah là, c'est pas mal. On se donne les moyens que ça fonctionne. Et après, si c'est pas celui-là, il y en aura toujours un autre.
C'est ça.
Donc, je pense que prendre les choses comme ça, c'est le meilleur moyen de se donner la confiance en soi pour avancer, de se dire que si c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc, autant se donner à fond.
Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, un peu lâcher prise, quoi. De pas se prendre la tête et pas forcer, je pense.
Lâcher prise, oui, au sens où ça veut pas dire pas être conscient des choses, mais oui. Ça veut dire en tout cas. D'ailleurs, on dit souvent un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui résout pas les problèmes qui n'existent pas. Parce que souvent, on anticipe les problèmes, on veut résoudre plein de choses, on se dit ah ça va faire des millions, il faut embaucher, il faut faire ça, mais en fait, il faut prendre les problèmes comme ils arrivent. Et donc ça demande en effet d'être plus dans l'instant présent, d'avoir plus les pieds sur terre et en effet d'être plus dans quelque chose de simple et d'arrêter de se poser des problèmes et de se retourner la tête pour rien.
Qu'est-ce que tu as appris en lançant Shookmap? Même si c'était la deuxième.
Ouais, mais j'ai refait la même erreur quand même.
C'est vrai.
mais maintenant je l'ai appris justement. Le plus important, c'est pas l'idée, c'est le problème qu'on résout. Et ça, je le savais il y a longtemps. Mais ce que j'ai appris en plus, c'est qu'il faut résoudre un problème. Il y a un problème, il y a une solution, il y a une cible, il y a un business model. Point. Tout autre projet, ça peut pas fonctionner, surtout quand on se lance, surtout quand on est jeune, surtout quand on a un peu de moyens, quand on veut créer une start-up. Il faut trouver un problème. Et je disais, soit il faut résoudre un tout petit problème qui répond à beaucoup de gens, soit il faut résoudre un énorme problème qu'ont très peu de personnes. Donc après, ça pareil, c'est un choix, c'est le marché. Mais trop souvent, au Startup Weekend, où j'aide les entrepreneurs au Startup Weekend, par exemple, ils viennent et ils ont genre 4 problèmes différents, okay. Ils ont genre 2 cibles, et puis derrière, il y a 3 business models. Ça peut te paraître évident, mais je te jure qu'en fait, quand tu fais un projet, tout le monde fait cette erreur. Et je l'ai faite aussi, et c'est normal en fait de vouloir en rajouter. C'est comme une recette de cuisine. Les bons chefs, ils t'expliquent qu'une recette extrêmement complexe d'un étoilé, c'est 3 produits, 2 préparations, basta. Et toi, quand tu veux faire un truc compliqué, t'en rajoutes et t'en rajoutes et t'en rajoutes. Et ben c'est un peu pareil. Si tu veux quelque chose de vraiment le plus fort possible, il faut rester simple. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai appris avec Shlookmap.
T'as déjà fait cette erreur?
Parce qu'au début, on avait un autre business model et on résolvait un autre problème. Donc c'est un peu bizarre, le produit en façade est resté le même, mais avant on ne gagnait pas de l'argent de la même façon.
Ok.
Avant on faisait payer les bars, en fait.
Ah.
Avant c'était gratuit et on faisait payer les bars.
D'accord.
Et maintenant ça reste gratuit, mais il y a une option premium où c'est les utilisateurs qui payent. Et c'est juste qu'en fait on ne connaissait pas bien ce marché et les bars n'étaient pas prêts à payer pour un produit que nous on trouvait génial. Hein.
C'est ça.
Nous, on le trouvait chouette, mais on l'avait pas assez attaché d'importance au problème, qui était le problème des bars, parce qu'on n'était pas gérant de bar. Et que le problème de base, c'est ce que je disais. Le problème que je voulais résoudre, c'était le problème de moi, étudiant, qui cherchais un happy hour. C'était pas le problème du gérant de bar. Le gérant de bar, je le connais pas, en fait. Et c'est pas mon problème. Le problème que je veux résoudre, c'est passer un bon moment dans un bar. Et donc, aujourd'hui, tu peux utiliser l'appli gratuitement pour retrouver un bar sympa, mais si tu veux que ce soit encore plus sympa et profiter encore plus longtemps de ta soirée, bah tu peux payer.
Et c'est quoi qu'est-ce qu'on a avec justement l'option?
Le Shlook Club avec l'option payante. Alors donc, le Shlook Club, c'est l'abonnement.
Ouais.
Tu payes 3,99€ par mois sans engagement. C'est un peu comme Netflix des bars. Et tu as des promotions spéciales négociées.
Et là, ils sont d'accord.
Et donc, pour les bars, en fait, comme ça, ils fidélisent les personnes. Ils ont des nouveaux clients. C'est pour eux un outil de communication qui est gratuit. Ils ne nous payent rien. Et du coup, les utilisateurs qui payent 3,99€ par mois pour avoir des promotions avec, par exemple, l'happy hour prolongé toute la soirée, avec des réductions jusqu'à 5-6€ sur des bouteilles, sur des à manger, etc. Donc, tu rentabilises ton abonnement en une soirée et tu découvres des endroits sympas.
C'est plutôt pas mal.
Voilà.
Oui, ouais, mais il faut se poser les bonnes questions pour arriver à ça. Ça n'a pas été... T'as mis du temps à dire ok, c'est pas le bon business model, faut qu'on change, faut qu'on trouve une autre idée.
Ça a pris 4
ans. Ouais, c'est ça que je dis, les remises en question.
Il y en a eu un paquet, en effet, ça prend du temps. Après, ça aurait pu ne jamais fonctionner. Bon, d'ailleurs, je dis pas que ça a fonctionné, mais à chaque fois, il faut se remettre en question. C'est ça qui est difficile. On pense toujours avoir trouvé. Parce que là, si je t'écoute de ton point de vue, tu me dis ah, bah, t'as trouvé.
Oui, non, mais on sait pas. Non, mais t'as trouvé.
Mais je sais pas, en fait.
Enfin, t'as trouvé une option. Encore évoluer. Une option vers quoi aller, je veux dire.
C'est ça.
C'est pas dans 2 ans si elle va encore changer.
Comme une belote de laine qu'il faut tirer. Ouais. Un moment, ça bloque. T'es obligé de reprendre le truc. Mais ok, quand ça vient tout seul, c'est bien. Mais tu sais pas combien de temps ça va fonctionner, combien de temps tu vas pouvoir tirer dessus. Donc après, il faut être à l'écoute, il faut se remettre en question. Et ça, c'est aussi une des qualités des entrepreneurs. En tout cas, ce qu'il faut avoir chez un entrepreneur, c'est la capacité de se remettre en question.
Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer ?
Pour moi, la plus grande qualité qu'il faut avoir, c'est la curiosité.
Ouais. D'accord.
Être curieux, toujours remettre en question, apprendre, chercher et jamais se reposer sur ce qu'on a.
Parce que je dis souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent à l'école. Et après, elles arrêtent, quoi.
C'est ça.
C'est fini.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend toujours. Pour aimer apprendre, il faut être curieux. Et la curiosité, c'est une des meilleures facultés d'un entrepreneur. Après, il y a l'audace aussi. Les audacieux. Il faut être audacieux, mais il ne faut pas non plus être tête brûlée. De la même façon qu'il faut être persévérant sans être têtu. C'est assez subtil à trouver tout ça et donc c'est un mélange de plein de choses qui ont vite un revers un peu négatif.
Parce que l'audace, c'est complètement le contraire de la peur. Mais après, je parle en audace de nos peurs à nous qu'on se met et qu'on se limite, parce qu'en fait on dit qu'on a notre voix qu'on a dans notre tête, elle a environ 2 ans et elle a bu un triple expresso. Donc des fois, elle ne nous protège pas contre les besoins fondamentaux et les peurs du vide ou les peurs du bruit. Des fois, elle nous bloque pour des peurs qu'on a dans nos têtes par rapport à notre passé. Et en fait, c'est surtout ça, l'audace qu'il faut... Je ne sais pas si tu vois
ce que
je veux dire.
Bah c'est le fait de... ce que tu disais, oublier ses propres peurs, oublier ses propres contraintes, en fait, et oser aller de l'avant et oser faire les choses et se dire que en fait, on anticipe toujours l'échec, comme je disais. C'est ce que tu dis, c'est par instinct de protection. On anticipe toujours les erreurs, les échecs ou les problèmes. Parce qu'en fait, on veut se protéger, c'est normal. Mais donc, dans le cas de l'entrepreneuriat, on veut se protéger d'un échec. Mais échec, c'est quoi ? En fait, c'est au regard des autres, dire qu'on a échoué, donc c'est ne pas assumer. Est-ce que c'est un échec financier ? Ok, il y a de l'argent en jeu, mais en fait, la plupart du temps, c'est l'entreprise qui va gagner de l'argent. Il faut mettre un petit capital de départ ou quelque chose, mais en fait, il n'y a rien à perdre. Et donc, on se met des contraintes et on se dit qu'il y a des choses à perdre, alors que quand on regarde, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, et que même ce qu'il y a à perdre, ce n'est pas grand-chose. Alors après, moi, je prends aussi mon cas qui est peut-être différent. J'ai bien conscience que quand on a 50 ans, un prêt de gamin, c'est complètement différent. Et chaque entrepreneur à ce niveau-là est unique dans ses ressources, dans ses moyens, dans ce qu'il risque. Mais il y a toujours des solutions en fait pour pouvoir conserver ce qu'on a, mettre ses propres contraintes, ses propres limites et du coup oser entreprendre.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte ?
En vrai, je suis curieux de tout. Il n'y a pas de truc en particulier que j'aime vraiment pas faire dans la boîte.
Qu'est-ce que tu aimes faire sinon ?
Ce que j'aime pas faire, enfin ce que j'aime moins faire, ouais. On va dire. Il y a forcément l'administratif, oui. Un petit peu. Hein, la compta, tout ça, les papiers. Mais en fait, ça peut avoir un côté rigolo. Il y a les réseaux sociaux. C'est moins mon truc, moi. Mais du coup, je le délègue ou bien je le fais, j'apprends, je me force. Et en fait, ça peut être aussi rigolo. Du coup, je dirais le truc que j'aime le moins, c'est être tout seul. Le truc que je déteste, c'est me poser des questions, être tout seul. Et on ne parle pas assez qu'en fait, un entrepreneur, c'est des montagnes russes émotionnelles. Et on cache souvent les parties basses. Et en fait, y a des jours où, comme tout le monde, on n'a pas trop envie de se lever. Il y a des jours où on déprime, il y a des jours où on est perdu. Et ces moments-là, c'est compliqué d'oser aller voir les autres, d'oser appeler son associé, une personne, et disant « ouais, j'ai pas trop le moral, ça va pas trop ». Et d'oser s'avouer et avouer aux autres qu'on n'a pas foutu grand-chose forcément aujourd'hui. Ça, c'est le truc que j'aime pas. Ouais. Ne pas avancer.
Ouais. Il y a des jours...
Il y a des jours où on fait du surplace.
Ouais.
Et donc, c'est ce que je dis, ok, l'administratif, les réseaux sociaux, peut-être que j'aime pas, mais en fait, tu fais quand même des trucs. Et à la fin, quand t'as enfin fait ta compta et enfin fait tes papiers, t'es trop content d'avoir fait ta to-do list, là, d'avoir tout
c'est
coché.
C'est ça, tout barré.
Et donc, tu dis, yes, en plus, comme c'est des trucs que t'aimes pas faire, t'es encore plus heureux de les avoir fait. Et par contre, quand en fait, tu t'avances pas et que ta to-do list, elle grossit et que t'as rien fait, je trouve que c'est ça le plus horrible.
Ou aussi, quand tu pourras aller plus vite, je trouve. Enfin, je sais pas, des fois, on a une grosse to-do list et on a mis tellement de temps à la faire qu'on se dit, je suis sûre qu'en 4 heures, j'aurais pu faire ça alors que j'ai fait en 16 heures. Je sais pas si ça t'arrive, toi, d'être lent. Ça veut dire ça.
Ah, ça, je sais pas, parce que je vais me prendre le temps. Et si les choses se font à rythme, c'est qu'il y a une raison.
D'accord, je pas de dire, pression.
Pas de pression, parce que les choses doivent se faire dans le temps dont tu as besoin. Et en fait, si après tu fais autre chose à côté, si c'était pour un temps de réflexion, si c'est peut-être juste que c'était nécessaire de prendre autant de temps, en fait. On ne peut pas s'imposer un rythme, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on se crame. Et entreprendre, ce n'est pas un sprint. Hein, comme c'est un peu cliché, mais ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, les choses qui doivent prendre le temps, elles prennent le temps. Mais il vaut mieux avancer lentement que pas avancer du tout.
Quel est ton plus grand défaut ?
Égoïste, et je coupe la parole. Ça s'entend pas trop au podcast, mais je suis sûr un peu quand même.
Ça arrive. L'anecdote de la honte. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu as eue, je sais pas, même avec au début ou en start-up week-end ou en allant vers les bars, enfin, une grosse honte que tu voudrais oublier ?
J'en ai pas tellement sur la boîte, il y en a plus une qui était il y en a une qui me vient à l'esprit comme ça qui était drôle, c'est que c'était dans le cadre de Strasbourg Startup, on avait organisé un meet-up avec des entrepreneurs et je présentais le meet-up quoi, j'étais présentateur. Et sauf que du coup c'était il y avait la consul des États-Unis en fait en intervenant, la consul de Strasbourg, je crois qu'on dit la consul, je vais pas dire de bêtises. Hein. En tout cas qui présentait, donc c'était un meet-up en anglais et en fait donc je m'étais préparé, j'étais confiant et tout, et quand je suis venu j'ai dû porter plein d'affaires, en fait il y avait plein de merde, j'ai dû en fait faire la logistique, je suis arrivé, j'étais transpirant, j'étais hyper stressé, j'avais perdu tous mes moyens. Et du coup j'ai baragouiné des trucs en anglais, je pense que c'était incompréhensible. Je pense que les gens en disaient que c'était nul à chier. Et donc j'avais bien présenté, j'étais hyper à l'aise. Sauf que comme j'ai dû courir 5 minutes avant, je suis arrivé vraiment dégueulasse, transpirant. Et je suis monté sur scène, je pense encore essoufflé. Et du coup, c'était assez nul. Ouais. Et du coup, c'était assez honteux à la fin. C'était un gros meet-up, quoi. Et donc vraiment, c'était pas bon.
On te l'a dit ou tu l'as compris tout seul ?
J'avais compris tout seul. Dans ce genre de moment, en général, t'as pas besoin quand on rajoute une couche.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Je dirais suivre, faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, sans suivre sa joie. On me l'a souvent dit comme ça. Et il y a une autre façon de le dire qui est l'univers conspire. Et en fait, de dire que ce qu'on a envie de faire, il n'y a aucune raison de pas pouvoir le faire. D'ailleurs, souvent, on a envie de faire un truc que d'autres gens ont fait avant nous. Donc en fait, il faut juste se dire pourquoi d'autres ont pu y arriver et je ne pourrais pas y arriver. Et c'est peut-être juste le truc qui est dur aujourd'hui de trouver, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Mais après, une fois qu'on sait ce qu'on a envie de faire, si c'est vraiment un truc profondément ancré, alors tout concordera et tout suivra et surtout, on se donnera tous les moyens qu'il faut et ça marchera forcément.
Donc ce podcast est terminé. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à toi.
J'ai hâte de voir la suite de la Choukmap et je vais suivre ça de très près.
Si tu veux, je rajoute qu'on pourra mettre un petit code promo pour tous les gens qui utilisent qui suivent le podcast. On pourra mettre un code promo pour le Chou Club si tu veux.
Ce serait pas mal, ce serait marrant. Donc merci en tout cas. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à toutes mes questions. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?
Bah, que Choukmap, ça marche, ça se développe.
Oui.
Bientôt, on lance à Paris. Donc, espérons qu'on ait le même succès à Paris qu'à Strasbourg. Et puis, voilà.
Donc, merci à tous. Merci d'avoir écouté le rendez-vous des audacieux. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et je vous fais des bisous.